aux 40 minutes. Juan Gomez, c'est à vous.
Merci. Appel sur l'actualité. Bonne journée, Sébastien Duhamel, 10h40 à Paris.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
6 mois après avoir claqué la porte de la CEDEAO, Bamako, Niamey et Ouagadougou ont acté la rupture avec l'organisation régionale. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Voilà ce qu'a déclaré samedi le général Tiani, l'homme fort du Niger, lors de l'ouverture du sommet de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec à ses côtés le colonel Goïta du Mali et le capitaine Traoré du Burkina Faso. Malgré les appels au dialogue de la CEDEAO, malgré la main tendue de l'organisation ouest-africaine, le divorce est donc consommé. D'ailleurs, les militaires au pouvoir dans ces trois pays ont franchi une nouvelle étape en signant l'acte de naissance de la Confédération des États du Sahel, avec pour ambition renforcer la coopération sécuritaire, se doter d'instruments propres pour financer le développement économique et social ou encore faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace AE. Alors, que vous inspire cette initiative? Est-elle, selon vous, réaliste? Et pensez-vous que ce projet, finalement, risque, à terme, d'affaiblir encore un peu plus une CEDEAO en perte de crédibilité? On va en parler durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 et vos commentaires nombreux sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns, évidemment, pour alimenter la réflexion. Moïse, vous êtes à Cotonou, vous êtes au Bénin, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Monsieur Roal.
Vous lancez le débat ce matin sur RFI et vous ne croyez pas en cette confédération?
Pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas en cette confédération. Ces trois militaires, c'est des gens qui sont là pour protéger leurs propres intérêts. C'est pour pérenniser leur pouvoir. Et vous allez voir, moi, je vous donne rendez-vous dans 2, 3 ou 4 ans. C'est des gens qui vont se recycler en civil, ils vont troquer leur kaki contre les boubous africains là. Pour dire maintenant qu'ils sont civils, ils se présentent aux élections, ils vont organiser une élection qui peut être contestée. D'abord, ils vont dire qu'ils ont élu et c'est fini pour toujours, ils vont rester éternellement au pouvoir. C'est ça, ils créent l'AES, c'est pas dans l'intérêt du peuple.
C'est pas dans l'intérêt du peuple. Et pourtant, il y avait du monde dans les rues de Niamey pour accueillir...
On est en Afrique. On sait comment ça se passe. On sait. C'est des gens qui sont financés. On sait comment ça se passe en Afrique. On va les déplacer. On va envoyer des cars pour les déplacer des provinces, des origines lointaines. Ils viendront pour rester sous le soleil là-bas. Ils vont dire qu'ils sont pour ce qui se passe. Après, c'est des gens qui sont financés. Tout ça, on le sait. On est en Afrique.
Mais Moïse, malgré tout, vous êtes contre la création de cette confédération des États sahéliens. En même temps, est-ce que ça ne provoque pas tout de même une sorte d'électrochoc qui va permettre à la CEDEAO de se réveiller et peut-être de tirer les leçons du passé et de revenir sur ses erreurs?
Oui, je suis d'accord avec vous. La CEDEAO a péché. Et eux-mêmes, je crois qu'ils répètent les mêmes erreurs, la même erreur que la CEDEAO a commise. Et parce que quand il y a eu le coup d'État au Niger, là, la CEDEAO n'a pas pris suffisamment de recul pour réfléchir, savoir comment faire. Donc, ils ont pris une décision à la hâte, bon, voilà, qui a été contre-productive. Eux-mêmes aussi, maintenant, là, ils prennent la décision parce que la CEDEAO fait ça, eux-mêmes, ils reprennent la même erreur. Pour dire, quitte la CEDEAO et créent l'État de l'AES.
Oui.
Mais, c'est déjà, en tout cas, pour moi, tout ça, là, c'est les mêmes erreurs que la CEDEAO a commises. Ils auraient dû prendre, ils n'ont rien, bon, ils disent qu'ils quittent la CEDEAO. En plus, ils ont dit avec effet immédiat.
Oui.
Avec
effet immédiat, en même temps, tout le monde sait que voilà, il y a un protocole à respecter, protocole qui dure un an. L'annonce a été faite fin janvier, donc fin janvier 2025. Ces trois pays ne seront définitivement plus membres de la CEDEAO, à moins que d'ici là, Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, parvienne à convaincre ces trois pays de rester au sein de l'organisation ouest-africaine, puisque Bassirou Diomaye Faye a été désigné facilitateur de la CEDEAO pour engager des pourparlers avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Merci Moïse d'avoir lancé le débat. Soyez le bienvenu Jean-Arnaud, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
À Ouagadougou, et vous comprenez la création de cette confédération?
Oui, ben, je suis. Ça ne m'a pas étonné parce que on s'attendait beaucoup à ça. Parce que si vous allez voir ce qui a prévalu donc à la sortie des trois États de l'espace CEDEAO. C'est notamment ce qu'ils ont avancé. La CEDEAO les avait lâchés entre-temps. Il y a la question sécuritaire où on n'a pas, en tout cas selon moi, hein, on n'a pas vu pratiquement pas l'implication même de la CEDEAO en tant que telle. Mmh. Et donc, il fallait s'attendre à ce qu'on acte quand même pour aller vers la Confédération. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas surpris.
Mais c'est une bonne chose. Vous diriez que c'est une bonne chose pour votre pays, pour votre quotidien, Jean Arnaud ?
Oui, parce que vous savez, actuellement, toutes les portes sont fermées pour les trois États du Sahel. C'est ce qu'on appelle le développement endogène que les populations sont en train de faire.
Enfin, excusez-moi, Jean Arnaud, les portes sont fermées parce que vos dirigeants, les militaires qui sont au pouvoir, ont fermé les portes, puisque la CEDEAO, je le rappelle, a quand même levé une grande partie des sanctions contre vos trois pays.
Effectivement, mais vous savez, quand on n'est pas en une démocratie classique comme on le voit le plus souvent, c'est dû d'avoir des partenaires qui vont vous accompagner dans vos projets de développement. C'est dans ce cadre-là justement que je voulais dire qu'on n'a plus de soutien extérieur. Et c'est les populations qui font ce qu'on appelle la cotisation au soutien patriotique pour pouvoir accompagner l'État dans sa vie quotidienne.
Excusez-moi, Jean Arnaud, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que ce sont les citoyens, vous en tant que population, qui d'une certaine façon soutenez l'économie ?
Oui, bien entendu, on accompagne l'économie de nos pays à travers de petites cotisations, des prélèvements, des taxes, oui, parce que c'est ça aussi le sacrifice.
Oui.
Voilà, c'est ce qu'on nous demande de faire, donc on le fait pour un objectif. Celui de pouvoir reconquérir nos territoires. Et moi, je pense que si les trois États s'allient avec pour objectif justement de pouvoir mettre en place une armée confédérale qui va aller vers la reconquête de nos territoires, ben, naturellement, il fallait s'attendre à ce qu'on acte hein, cette confédération-là pour que les choses prennent normalement.
Je vous lis le commentaire de Demba, il est à Bamako, il nous a écrit sur WhatsApp. L'alliance des États du Sahel se concrétise avec la création donc, de la Confédération des États du Sahel, mais l'inquiétude demeure quant à la libre circulation des personnes et des biens de l'AES dans l'espace CEDEAO, et ça, évidemment, ce sera une problématique, et ça a d'ailleurs été pointé du doigt dimanche lors du sommet de la CEDEAO, puisqu'Omar Aliou Touré, qu'on a entendu sur RFI, hein, le président de la commission de la CEDEAO, a dit qu'à l'avenir, les ressortissants du Mali, du Niger, du Burkina Faso pourraient être soumis à une nouvelle réglementation, à devoir demander par exemple des visas s'ils souhaitent voyager dans la CEDEAO. Et pour les citoyens de ces trois pays qui vivent déjà dans un des États membres de la CEDEAO, ils devront très certainement être soumis aux lois nationales, donc avec l'obligation certainement d'avoir des titres de séjour. Merci Jean Arnaud de nous suivre sur les réseaux sociaux à Ouagadougou. Issa, vous êtes à Niamey, vous nous suivez également sur les réseaux sociaux. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe.
Le Niger qui fait également partie de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Dans quel état d'esprit êtes-vous après la création de cette confédération ?
Eh bien, bon, de toutes les fois, j'appelle après la création de la confédération de l'AES. Donc, bon, on s'est dit que ce n'est pas de franchise, mais de toutes les façons, nous, et ce qui nous inquiète un peu, c'est par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. Bien que Omar il a parlé au conditionnel, Omar Touré, mais moi, je me dis que imposer de visa aux ressortissants de l'AES pour les pays de la CEDEAO, moi, je me dis que vraiment, ça sera quand même difficile. Ça sera difficile et en tout cas, j'aurais du mal à concevoir quand même qu'on dise qu'un Nigérien doit payer, doit faire prendre
mais
un visa.
Mais en même temps, Issa, si on va jusqu'au bout du raisonnement du général Tiani, l'homme fort du Niger, il claque la porte de la CEDEAO. Il ne veut plus être membre de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À partir de ce moment-là, vous en subissez les conséquences. Et l'une des conséquences, c'est que si vous n'êtes plus membre, eh bien, il faut un visa pour voyager à travers les autres États membres.
Un visa, mais ça, c'est effectivement... Au fait, ça, c'est vraiment le problème qui a toujours été, qu'on a toujours parlé, le problème de la CEDEAO. Vraiment, la CEDEAO n'a pas été la CEDEAO du peuple. Parce que imposer un visa aux ressortissants, ça serait quelque chose de difficilement applicable. Parce que, pour exemple, on l'a vu, même lors de la frontière et de la fermeture des frontières,
oui.
Pendant tout ce temps, juste un exemple, officiellement la frontière avec le Nigeria était fermée. Mais je vous dis, Juan, chaque jour il y a des gens qui traversent la frontière, bien qu'on dit officiellement la frontière a été fermée pendant tous ces mois, chaque jour, il y a des Nigériens qui traversent pour entrer au Nigeria faire leurs affaires. Il y a des Nigériens qui traversent. C'est juste, ils contournent sur 200-300 mètres le poste frontal. Et souvent, c'est même les forces, les policiers qui...
Pour dire quoi, Issa, alors ? Que voulez-vous nous démontrer en nous disant que lorsque la frontière entre le Niger et le Nigeria était fermée, malgré tout, il y avait des va-et-vient quotidiens ? Que voulez-vous démontrer par là ?
De toutes les façons, moi, je pense que le mieux serait que l'AES, la CEDEAO, s'assoient sur la table et discutent.
Oui, mais enfin, c'est ce que propose la CEDEAO, de discuter. La main reste tendue. Les chefs d'État...
La CEDEAO doit faire un effort. La CEDEAO doit reconnaître qu'elle a des faiblesses, que la CEDEAO doit être... Les textes doivent être revus. La CEDEAO accepte cela. Bon. Ils acceptent que, voilà, il faudra que certaines choses changent.
Ben on verra, on verra de quoi voilà. Est capable Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, d'ailleurs lui-même, puisqu'il a été désigné facilitateur, dit qu'il faut effectivement que la CEDEAO reconnaisse ses erreurs et tire les leçons justement de ce qu'elle n'a pas su correctement bien faire. Et cette CEDEAO qui, au sein de l'opinion publique, a une mauvaise image, ce n'est pas une confédération, ce n'est pas une communauté des peuples, c'est ce que pense en majorité. La population. Issa, merci infiniment. Lamine s'impatiente, il souhaite prendre la parole. Bonjour Lamine.
Bonjour, comment allez-vous?
Très très bien. Et vous, à Conakry, comment allez-vous?
Ça va, tout le monde va bien.
Bon, tant mieux. Êtes-vous satisfait ou vous avez des inquiétudes après la création de cette confédération des États sahéliens?
Oui, je pense que vraiment nous sommes en train d'aller dans le réveil de la conscience de la jeunesse africaine. C'est ça qui est vraiment important dans la création de cette alliance. Et je pense que la CEDEAO devrait revoir ses copies. C'est très important parce que la CEDEAO s'attaque aux effets, mais ne s'attaque pas aux causes. Les effets, c'est vraiment le coup d'État, mais les causes de coup d'État dans les pays africains, c'est vraiment la mauvaise gouvernance, c'est vraiment le tripatriage des constitutions. C'est les chefs d'État s'octroient des mandats illimités au détriment des intérêts du peuple. Je pense que ces jeunes militaires qui sont en train vraiment de révolutionner, nous sommes en train de revenir dans le soleil des indépendances. Mmh. Au soleil des indépendances, à la veille des indépendances dans les années 58-60, il y avait des révolutionnaires, des Africains conscients qui savaient que le développement de l'Afrique était vraiment endogène. Donc, ce n'est pas les puissances étrangères qui peuvent vraiment dicter les lois aux Africains pour nous pouvoir... Il y a plus de 60 ans, les Africains.
Vous êtes convaincu, comme les trois militaires au pouvoir au Mali, Burkina et Niger, que la CEDEAO était vraiment sous l'influence des Occidentaux et clairement de la France?
Mais ça, c'est visible. Mais c'est la CEDEAO qui dicte les lois à la France. Et plutôt, c'est la France qui dicte la loi aux dirigeants de la CEDEAO. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas continuer. C'est les seuls pays francophones africains qui sont en train de traîner et qui ne peuvent pas se développer. Il y a des pays aujourd'hui, il n'y a même pas de courant.
Donc, à vous entendre l'initiative de ces trois militaires et l'exemple à suivre. Je vous lis, Lamine, le commentaire sur WhatsApp d'un de vos compatriotes. Lui aussi est à Conakry. Il s'appelle Alpha Ousmane. Et il nous dit « Ce sont des juntes militaires orgueilleuses, arrogantes, qui n'ont aucune expérience du pouvoir politique et diplomatique. Elles sont là à s'agiter avec leurs discours propagandistes en disant qu'ils sont souverains. C'est une confédération qui ne va pas durer dans le temps car elle est créée par des juntes incapables de lutter contre les djihadistes. » Fin de citation. Lamine, je vous souhaite une bonne journée à Conakry. Merci de nous écouter dans la capitale guinéenne. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan, bienvenue à Dakar.
Dans la capitale sénégalaise. Et le coq nous accueille également, c'était bien un coq.
Mais voilà, exactement, c'est bien ça. Vous avez vu. Hein.
Ibrahim, que pensez-vous de cette confédération des États du Sahel?
Bon, moi je suis un peu dubitatif par rapport à cette confédération, parce que je dis que bon, elle est créée sous le coup de l'humeur et du ressenti. Bon, parce qu'en fait, aujourd'hui, eux, ils se targuent d'avoir créé cela, mais ça a des conséquences internes. Les peuples des différents pays sont en train de souffrir. Le malheur, c'est que tous ces trois pays sont des pays enclavés et qui ont besoin des voisins. Si on se coupe de ces voisins, comment peut-on se développer ?
Et les voisins qui vont, à l'avenir, une fois que ces trois pays auront définitivement quitté la CEDEAO, les voisins vont instaurer des droits de douane pour permettre à ces trois pays d'importer des produits. Donc, il risque d'y avoir une inflation conséquente au Mali, au Burkina et au Niger.
Oui, mais non seulement il y aura ce que vous évoquez, mais il y aura aussi le droit de séjour. On va leur imposer des cartes de séjour. On va leur imposer beaucoup de choses et les déplacements seront difficiles.
Justement, vous parlez du droit de séjour, des cartes de séjour. Je retrouve le commentaire de Bernard. Il est à Abidjan et Bernard, en Côte d'Ivoire, et c'est de quoi il parle, parce que la diaspora burkinabé est très importante. Il nous dit que les conséquences seront incalculables pour les Burkinabés résidents en Côte d'Ivoire. Ils sont de mémoire 4 millions. Il nous dit qu'ils vont avoir besoin de passeports. Ce sera compliqué pour la libre circulation, compliqué pour eux de faire des transactions bancaires. Donc voilà la réalité que prédit cet auditeur de Côte d'Ivoire. Je vous laisse poursuivre, Ibrahim.
Oui, mais oui, tout à fait. Ce qu'il dit est vrai, mais il y a un autre problème. Il y a aussi le problème de la monnaie. Parce que n'oubliez pas qu'en dessous de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle l'UMOA.
L'UMOA.
Et qui permet justement... Le transfert d'argent, les transactions monétaires, interbancaires, etc.
Oui. Mais pour l'instant, il ne souhaite pas se retirer de l'UMOA. Il se retire de la CEDEAO, mais pas de l'UMOA. Et je vous rappellerai qu'en novembre dernier, les ministres des Finances avaient déclaré qu'ils envisageaient, les ministres des Finances de ces trois pays, qu'ils envisageaient la possibilité de créer leur propre monnaie, en tout cas une union monétaire. Affaire à suivre, c'est plus compliqué à faire qu'à dire. Je ne suis pas économiste. Ibrahim, je vous présente Théophile. Il est à Accra, au Ghana. Bonjour Théophile.
Bonjour monsieur.
Bienvenue Théophile. Oui. Alors, que pensez-vous de cette Confédération des États du Sahel ? Ibrahim lui dit, ils vont droit dans le mur. Vous, visiblement, vous trouvez que c'est une opportunité pour ces trois pays ?
Évidemment, une grande opportunité pour ces trois pays et aussi pour toute la sous-région et aussi pour toute l'Afrique. Parce que moi, j'y crois vraiment. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où la CEDEAO ne bouge plus. Elle est devenue intacte, stable. Il est au même niveau. Mais on doit évoluer, on doit partir, on doit quitter d'un point à un autre. Mais imaginez, depuis que la CEDEAO est créée, depuis 1975, la seule monnaie qu'ils ont en effet, qu'ils ont en vision de créer, n'a jamais vu le jour.
Oui, l'écho. Elle verra peut-être le jour en 2027. D'accord, mais est-ce que vous avez l'impression que ces trois militaires aujourd'hui sont en mesure de créer une nouvelle monnaie, Théophile ?
Je crois vraiment.
Ah bon ?
Parce que, en fait, créer une monnaie, de petits États comme l'Haïtienne, ils ont leur monnaie. Mais trois États comme ça, ils nous ont inoculé un virus de la peur. Et vous faites ça, vous ne pouvez pas. On peut tout le monde peut faire tout à tout moment. Il suffit seulement de décider. Si ces trois militaires se décident vraiment, moi ce qui me plaît vraiment, ils sont jeunes. On dit qu'ils n'ont pas d'expérience. Il y a monsieur là qui n'ont pas d'expérience. Expérience d'État, de chef d'État. Il y a une école où on devient chef d'État à l'avenir ? Non.
Non.
Bon. Tout le monde peut devenir chef
d'État. Donc en tout cas, vous êtes séduit par les trois militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou. On arrête là le débat pour ce matin, mais on aura l'occasion de le prolonger très très vite vu le nombre de réactions reçues au Standard et sur nos réseaux sociaux. On pourra d'ailleurs, si vous le souhaitez, prolonger la discussion vendredi. Le vendredi, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix et vous continuez d'ailleurs à débattre entre vous si vous le souhaitez via nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Demain, je vous propose de dresser le bilan des 100 premiers jours de la présidence Bassirou Diomaye Faye. Rappelez-vous, lors de son discours d'investiture, le président sénégalais s'était engagé à réconcilier la nation, à garantir la sécurité alimentaire, à lutter contre la corruption, à lutter contre la cherté de la vie. Vous voyez, les promesses étaient très importantes. Il voulait même, disait-il, redonner au Sénégal sa souveraineté économique. Bassirou Diomaye Faye tient-il ses promesses ? Que vous inspire son début de quinquennat ? On en parle demain matin. Et d'ici là, vous nous appelez évidemment, le standard reste ouvert. Prenez soin de vous. À suivre dans 10 minutes, Caroline Paré, priorité santé, toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir en